mes bouquins?
Pas tout, mais je t'ai trouvé ça d'occasion. L'écrivain a le même nom que toi.
Ah, Ferdinand.
Tu connaissais?
Marque-page.
Il est bien ton bouquin?
Alors aujourd'hui, nous prenons l'air avec nos micros en compagnie de Charles Aubert. Bonjour Charles Aubert.
Bonjour Marc.
Alors, nos auditeurs se rappellent peut-être, nous avions rencontré Charles Aubert il y a quelque temps, pas dans un décor aussi magnifique. On était dans un studio beaucoup
C'est
plus
vrai.
Modeste pour parler de son premier roman qui était Bleu Calypso. Et nous nous retrouvons alors là dans un cadre, quel cadre du des romans,
tout à fait, ce sont les cabanes des pêcheurs au bout du chemin du Pilou, et ça pourrait effectivement constituer un des décors de ces trois romans.
Voilà, on est sur le bord du canal du Rhône à 7, avec le canal d'un côté, les étangs de l'autre côté, le ciel bleu au-dessus de nos têtes. C'est très bien, surtout pour les temps qui courent, on veut nous enfermer à double tour.
Voilà, ben nous on sort.
Et nous sortons avec micro et tout ce qu'il faut. Donc, trois romans qui sont tous publiés chez Statkin et compagnie, un éditeur qui fait depuis quelques années un joli travail, un éditeur d'origine suisse qui a ouvert une succursale à Paris, avec donc Bleu Calypso, qui était le premier roman, qui est sorti il y a 3 ans à peu près, c'est cela?
C'était en janvier 2019.
Oui, alors même pas, plutôt 2 ans que 3, voilà.
C'est ça, ouais.
Il y a eu Rouge Tango
l'année d'après,
un an plus tard. Hein, d'ailleurs, dans l'entretien qu'on avait eu, la durée d'écriture était à peu près d'un an, donc c'était ponctuel. Et puis voilà, la ponctualité est toujours au rendez-vous avec Versamba, le troisième roman de cette série. Alors, pour qualifier ces romans, y compris la quatrième de couverture reprend ça, puis souvent on le voit dans les médias, il s'agit de polar doux. Alors, est-ce que c'est une appellation dans laquelle tu te reconnais? Excusez les auditeurs, Charles Aubert a le tutoiement très facile, donc
c'est
moi
vrai,
je
ne
peux
ouais.
pas répondre en vous voyant, ça ne marche pas. Alors voilà, est-ce que tu te reconnais toujours dans cette appellation? Il y a quelque chose du côté du ce que les Américains appellent « nature writing », l'écriture de la nature. Une inspiration américaine, d'ailleurs,
affirmée,
que tu revendiquais.
Ah oui, revendiquée, affirmée.
On avait évoqué Brotigan lors de notre premier entretien.
Oui, oui, oui.
Et puis,
il y en a toute une palanquée.
La littérature de pêche, c'est tous ces récits de pêche aussi, qui sont très en vogue, très américains, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas ça chez nous. Alors, polar doux?
Alors, polar doux, oui, effectivement. En fait, c'est une appellation un petit peu qui est arrivée un petit peu comme ça. C'est un petit peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, c'est-à-dire au début... On l'a évoqué, je crois, ça a démarré dans une interview écrite, et puis finalement, ça me colle un petit peu à la peau. Alors moi, je prends l'étiquette, il n'y a aucun souci. Alors, polar doux, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bien évidemment des polars, mais ce n'est pas des polars ultra-violents. Aujourd'hui, dans le paysage du polar français, on a quand même une production qui est très violente, quand même. Il y a quand même une mode au gore parfois, mais aussi à des sujets très 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 sombres. C'est d'ailleurs le polar, on appelle ça aussi la littérature noire, donc c'est bien normal. Mais moi, c'est vrai qu'à travers mes écrits, je capture certains codes du polar, mais je m'en échappe, quoi, dans le sens que, comme je disais, c'est pas très violent. Alors, il y a des crimes, puisque c'est une figure imposée du polar, mais je m'attarde pas sur des pages et des pages sur des façons de faire passer de vie à trépas des victimes. Voilà. Donc, et puis surtout, le ton de ces romans est un ton qui se veut un peu plus léger. Il y a un petit peu d'humour. Chaque début de chapitre commence par un haïku, je pense qu'on en reparlera, c'est un petit poème japonais, donc il y a un petit peu de poésie, un petit peu d'humour, et puis comme tu le disais, ce rapport à la nature qui est important, puisque dans mes romans, je souhaite que la nature soit un personnage à part entière, au même niveau que les autres personnages. Et c'est pour ça que le fait de faire aujourd'hui cette interview dans un cadre naturel me va tout à fait, mais il m'enchante.
Alors, tu te présentais dans notre premier entretien, qui remonte à 2 ans à peu près, comme un lecteur qui écrit. Alors, c'était le premier roman, quand on en avait parlé. Bon, maintenant, c'est peut-être plus tout à fait la même chose, parce qu'il y a trois romans quand même, peut-être un quatrième, on en parlera en cours, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que le lecteur qui écrit est devenu un écrivain qui lit ?
C'est une bonne question. En fait, moi, personnellement, je me considère toujours comme un lecteur qui écrit, puisque j'ai continué de lire. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est capital, puisque c'est de l'ordre de la construction intime. C'est à travers les lectures, je l'ai toujours dit, que je me suis construit quand j'étais plus jeune. Mais encore aujourd'hui, j'avoue que la lecture, c'est un moment qui est capital pour moi et donc au même niveau que l'écriture. D'accord. Donc je reste un lecteur qui écrit.
Toujours un lecteur qui écrit.
Oui.
Alors, il y a aussi quelque chose, il me semblait, qui est important, qu'on avait évoqué et qu'on retrouve là. C'est une question de rythme. Alors, il y a le rythme de l'écriture. Mais j'ai envie de dire, quel est le lien qu'il y aurait pour toi entre un rythme de vie, un rythme d'écriture et peut-être même un rythme de lecture ?
Alors le lien, il est facile à faire, puisque moi j'ai décidé de changer de vie il y a un peu plus de 10 ans de ça. Hein. Avant ça, je travaillais dans une compagnie d'assurance et dans des mutuelles d'assurance, donc une carrière de responsable commercial. Et j'ai décidé donc d'aborder la vie avec un rythme un peu plus lent, un petit peu dans le cadre d'une slow life, quoi, si on veut employer à tout prix un mot en anglais. Donc, cette envie de changer le rythme de vie, elle se retrouve aussi dans mon écriture, puisque donc on parlait tout à l'heure de polar doux, et c'est des polars effectivement où je prends le temps d'installer l'intrigue. Alors même s'il se passe beaucoup de choses, hein, ça reste quand même une lecture récréative. Donc pratiquement à chaque chapitre, il se passe quelque chose qui fait avancer l'histoire. Hein, c'est quand même ça reste un roman policier, ça reste des romans policier, mais je prends le temps effectivement de poser les situations, d'installer les personnages. Je m'attache beaucoup aux personnages, puisque moi, en tant que lecteur, quand j'essaie de me souvenir des lectures qui m'ont marqué, souvent j'ai pas gardé la mémoire des histoires. Je me dis, tiens, mais je me rappelle plus exactement quelle était l'histoire de ce bouquin. Par contre, il y a deux choses dont je me rappelle tout le temps, ce sont les personnages. Et la profondeur des personnages, voilà. Et puis aussi le style d'écriture, donc le style de l'écrivain, la façon dont il m'a raconté cette histoire. Donc, effectivement, tout ça dessine un rythme d'écriture, et au-delà de ce rythme d'écriture, un rythme de vie, une façon d'aborder l'existence.
Alors, on évoque les personnages, il y en a un certain nombre. C'était des personnages d'un roman au départ, maintenant c'est les personnages d'une série, on pourrait dire. Donc j'imagine que pour l'écrivain, l'intérêt, c'est de creuser petit à petit ces personnages, de roman après roman, en révéler une face cachée. Alors, il y en a un certain nombre qu'on pourrait évoquer. Bon, on va commencer par le principal quand même, qui est le narrateur, un petit peu... Oui. C'est classique dans un roman, on écrit avec ce qu'on est, donc qui est un petit peu, est-ce qu'on ose dire le double ou le porte-parole de l'écrivain ?
Ah, disons qu'on a quelques points en commun, en fait, tous les deux. Ouais. Et c'est vrai que tu l'as remarqué, ce sont trois romans, alors qui peuvent se lire de façon indépendante, hein, on peut lire très bien Versamba sans avoir lu les deux premiers. Alors après, parce qu'à chaque fois, c'est une intrigue policière, mais si on veut suivre l'évolution des personnages, il vaut mieux les lire dans l'ordre. Ça, c'est un premier point. Et pour en revenir à ta question, effectivement, Nils, c'est un petit peu... un double, ça serait peut-être... C'est un mot peut-être un peu fort. Disons que, ouais, comme je disais, on a quelques points communs. C'est une narration qui est à la première personne du singulier. Donc, c'est vraiment la vision de la vie de Nils qui est dans les romans.
Le narrateur est le personnage.
Tout à fait.
Un des personnages principaux.
C'est un des personnages. Et on voit l'évolution de l'enquête à travers son regard. Et c'est une personne qui a un regard un petit peu différent, dans le sens qu'il a une approche de la vie qui est un petit peu originale. Et Et puis aussi, il a eu aussi quelques différences dans sa façon aussi d'aborder le rapport avec l'autre. Effectivement, dans ses rapports sociaux, il a une sonorité différente, si on peut employer ce mot. Il a une façon de voir l'autre qui est un petit peu atypique.
D'accord. Alors, Nils Hogan, hein, qui est
le personnage principal
qui s'est retiré. Voilà.
Alors,
qui s'est retiré, qui fabrique des leurres pour les pêcheurs.
Alors exactement comme tu disais, dans les points communs, lui aussi il vient du monde de l'assurance. Il a quitté Paris un jour parce qu'il était excédé par la vie qu'il menait, la violence de la société. Au passage, il avait une désillusion amoureuse, ça c'est dans Bleu Calypso, et il vient s'installer dans notre région, entre la Méditerranée et les étangs salins, entre Sète et Montpellier, un petit peu dans le paysage dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et il souhaite une vie apaisée, un petit peu comme je l'ai voulu moi aussi il y a 10 ans de ça. Et lui, effectivement, il fabrique des leurres. Donc c'est des petits poissons en bois ou en plastique qui permettent de pêcher des prédateurs. Donc chez nous, par exemple, des loups. Voilà.
Alors, personnage principal... Mais en même temps, on va dire, c'est pas forcément le moteur de l'action dans les livres. Il est, dès le premier volume, c'est ça, et j'ai l'impression qu'à chaque volume, il est encore un peu plus
paumé, ouais.
Perdu et embarqué. C'est pas lui qui mène la barque, ce serait plutôt une jeune femme qu'il a rencontrée, qui est en train de devenir, volume après volume, le grand amour de sa vie, Lizzie. Alors,
effectivement, Nils, c'est un héros malgré lui. C'est un anti-héros. C'est totalement un anti-héros dans le sens que lui, comme je le disais, il cherche une vie apaisée. Malheureusement, les événements vont faire en sorte que ça ne va pas se passer exactement comme il avait prévu. Donc lui, il est très emballé dans ses histoires. Il est à contre-courant, quoi. Il y va, il est un petit peu embarqué malgré lui. Et l'élément moteur, effectivement, du tandem, c'est Lizzie. Alors Lizzie, elle, c'est la fille de son voisin de cabane, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'ils habitent dans des cabanes, et au bord des étangs salins, au bord de la lagune. Et Lizzie, donc, est la fille de son voisin de cabane, qui s'appelle Vieux Bob. Et elle est journaliste indépendante, et elle vient s'installer, elle aussi, dans la région. Et elle rencontre Nils à l'occasion de la première enquête dans Bleu Calypso. Et elle, effectivement, dans ce tandem un peu improbable, hein, elle va être l'élément moteur. C'est elle qui va transporter toute l'énergie qu'on peut trouver aussi dans ses bouquins. Et lui, il suit le mouvement. Et on a justement, et c'est ce qui fait, à mon sens, et en tout cas moi, le plaisir d'écriture, c'est de percevoir la vision que peut avoir ce type qui est un petit peu, quelque part, un peu à l'arrêt dans sa vie, hein, et qui voit passer cet ouragan qui s'appelle Lizzie et qui l'essaye de suivre à travers ses différentes aventures.
Alors, au lecteur de découvrir plus complètement ces personnages. Il y en a deux autres que j'aurais voulu qu'on puisse évoquer. On a découvert petit à petit, et là on le découvre de façon très importante, quelque chose du passé de Nils à travers la figure de son père. Une figure assez inattendue, je dois dire.
Alors oui, tout à fait. Il s'appelle Paddy, donc Paddy Hogan. Et c'est un Irlandais, lui. Donc en fait, Nils a une ascendance irlandaise, par son père en tout cas. Sa mère est marseillaise, si je dois faire un petit peu son curriculum vitae. Et ce Paddy, donc, c'est un père un petit peu qui a été absent au cours de sa vie. Et c'est un père qui a une particularité forte, c'est qu'il fait partie des travelers irlandais. C'est un peuple nomade, alors que peut-être qu'on connaît peu en France, hein, puisque nous, on connaît bien évidemment les gitans, les manouches, les roms. Donc ça, c'est les peuples nomades qu'on a l'habitude de fréquenter dans nos régions. Mais il y a aussi des peuples nomades qu'on connaît moins, et notamment en Irlande, donc les Irish travelers, ce qu'on appelle aussi les tinkers.
Les tinkers, absolument,
parce qu'ils font le trafic du cuivre. Mais c'est aussi des gens du voyage qui ont été mis sur les routes après la grande famine qui a sévi en Irlande au début du siècle dernier. Et puis ils ont continué.
Grande famine liée à une déficiente récolte de pommes de terre catastrophique.
Exactement, quelque chose que. Oui. Et puis le joug des Anglais aussi.
Un grand écrivain irlandais raconte dans Famine, Liam Flaherty, raconte tout cet épisode-là.
Tout à fait. Donc ils ont été mis sur les routes. Et puis depuis, alors, quand vous allez en Irlande, c'est pas. vous pouvez rencontrer au détour d'une route des gens qui sont dans des roulottes tirées par des chevaux, comme s'ils vivaient deux siècles en arrière. Donc, ce sont ces fameux Irish Travelers. Donc, Paddy, c'est un Irish Travelers et c'est un personnage haut en couleur. Hein, c'est quelqu'un qui est très. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à dessiner et à créer.
Ça se sent.
Ouais, il est très. Il est touchant. Il a une très, très forte personnalité. Et c'est vrai qu'il apparaît dans Rouge Tango et il vient un petit peu mettre un petit peu son grain de sel dans les histoires entre Nils et Lizzie. Il vient aussi parfois avoir certaine importance dans la résolution d'une enquête. Donc oui, c'est un personnage qui a toute son importance et qui, je pense, continuera d'exister si la série se poursuit.
Voilà, et puis il joue un rôle clé et très moteur dans cette enquête.
Il intervient
directement.
Surtout dans Versamba, ouais, il est vraiment au cœur.
Voilà. On n'a pas évoqué, on dit intrigue, enquête et tout, on n'a rien dit. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots quand même pour situer pour nos lecteurs qui seraient tentés et qui voudraient quand même savoir un peu de quoi il s'agit? Bon, ça se passe du côté des étangs.
Oui, tout à fait.
Ouais. Au sud de Montpellier, jusqu'à 7 à peu près.
Voilà, ça remonte jusqu'au lac du Salagou pour Rouge Tango.
C'est vrai qu'il y a un très bel épisode au Salagou. Ouais.
Et puis pour Versamba, ça se passe autour de l'étang de Thau. Alors pour faire le pitch rapide du roman, donc c'est... C'est une enquête qui se passe autour d'un ESAT, c'est un établissement qui accueille des adultes handicapés. Donc. Et c'est une série de meurtres qui a lieu autour de cet établissement et qui va permettre à Nils et Lizzie et à toute cette palanquée d'amis, parce que c'est vrai qu'on l'a pas encore abordé, mais il n'y a pas que Nils et Lizzie, Paddy, il y a aussi toute une flopée de personnes qui vivent autour d'eux. Ça crée une sorte de petite communauté.
Bon, on a évoqué Vieux Bob qui est le père de Lizzie.
Alors, c'est tous des personnalités un petit peu atypiques, des gens qui sont un petit peu en dehors de la société, pour la plupart, pas tous, parce qu'il y a quand même aussi Malkovich qui fait partie de la gendarmerie. Donc effectivement, cette enquête va leur permettre d'accueillir des nouvelles personnalités, hein, puisque en enquêtant autour de ces crimes autour de cet établissement, ils vont être amenés à côtoyer des jeunes gens qui travaillent dans cet établissement pour travailleurs handicapés.
Qui sont les compagnons,
puisqu'on
n'est pas loin.
C'est
l'association Les Compagnons de Maglore.
Alors, c'est pas directement eux, parce que...
C'est inspiré d'eux.
Il y a
des moments où je me disais, justement, il y a des choses qu'on situe très précisément, et puis d'autres, on se dit, mais c'est pas cohérent avec ce que je connais.
Oui, mais c'est fait exprès.
Donc, il y a un mélange qui a été...
Alors, c'est clairement inspiré des Compagnons de Magalone, puisque moi, j'habite dans le village à côté, donc je les connais bien. Mais j'ai transposé, moi, l'établissement sur les bord de l'étang de Thau. L'idée, c'était pas de les forcément de leur faire supporter le poids de ce regard. En plus, il y a des crimes autour de l'établissement. Ça, c'est vraiment un travail de création de l'auteur. Donc, je voulais pas non plus trop les associer à ça, à leur corps défendant. Donc, je préférais les laisser tranquilles et situer mon intrigue dans un lieu imaginaire, mais qui effectivement s'inspire de cet
établissement. Avec plein d'éléments empruntés à la réalité.
Oui, bien sûr, oui. Parce que quand on écrit, on ne parle que de ce qu'on connaît finalement.
Bien sûr.
Souvent en tout cas.
Bon, sur quoi on a enquêté, à minimum.
Au minimum, oui, tout à fait. C'est la moindre des choses.
On évoque ces personnages, ce monde-là. Et donc il y a un personnage, moi j'ai trouvé assez séduisant, qui en plus va nous faire une belle transition pour la suite de notre entretien, c'est Thau.
Alors Thau, effectivement, c'est un jeune travailleur de l'établissement. Et c'est un personnage attachant, parce que c'est vrai qu'il a... C'est un personnage un petit peu lunaire. Dans Versamba, j'évoque un petit peu, à un moment donné, il y a un des personnages qui, en parlant de Thau, évoque le personnage du Petit Prince. Et c'est vrai qu'il a cette forme de candeur, il porte cette poésie en lui. Et c'est un petit peu un petit prince exilé en ces terres occitanes et qui effectivement, c'est un personnage qui apparaît dans Versamba et qui, je pense, va continuer d'exister dans les prochains, puisque c'est lui aussi un personnage auquel je me suis attaché. Je sais que par les retours des lecteurs, je sais aussi que c'est un personnage qui a beaucoup plu. Donc effectivement, c'est forcément un personnage qui est là justement à travers sa poésie, à travers sa candeur, qui vient un petit peu tracer une voie, une route pour Nils aussi, puisque Nils, et on le verra peut-être par la suite, aura beaucoup de choses à apprendre de la vision de la vie de Tao, en tout cas.
Alors, Tao, on va dire, il nous amène à autre chose, puisque Tao, en japonais, c'est la voix.
C'est la voix, oui. C'est
la voix. Donc, on est dans une référence à la culture japonaise. Donc, on l'a évoqué déjà un tout petit peu, hein, qui est très présente dans le roman. Alors, on a parlé, il y a des petits haïkus, hein, c'est un poème très court, avec une structure rythmique très précise, 5-7-5.
C'est ça.
Mais aussi, il faut qu'il y ait un objet, il faut qu'il y ait la nature. Voilà, il y a tout un tas.
Oui.
C'est beaucoup de règles. Donc, chaque chapitre s'ouvre avec un haïku. Mais là, dans Vert Tango, il y a encore plus. Il y a une référence au livre des samouraïs.
Oui.
Le manuel de référence des anciens samouraïs. Et puis, alors, c'est pas un japonais. On va dire que on est quand même du côté de la culture asiatique. Un philosophe stratège, le fameux Sun Tzu, qui a écrit cet art de la guerre.
Alors effectivement, et Nils, en fait, c'est dans sa façon, lui, de se construire, il est passé aussi par les livres, et notamment par ces deux livres, un petit peu de, on peut appeler ça des livres de stratégie, alors asiatique, puisque tu le disais, le Hagakure, donc qui signifie caché dans les feuilles, c'est un petit peu le manuel à destination des samouraïs japonais, et Sun Tzu, qui est effectivement lui chinois, et qui va enseigner l'art de la stratégie guerrière, donc à travers un code qui est assez court d'ailleurs, mais qui donne des indications qui sont très précises. Et pour qui a l'œil averti, en lisant ces deux bouquins, on peut en tirer des règles qu'on peut appliquer à sa propre vie. Donc Nils, effectivement, il a un petit peu construit sa vie à travers ces deux ouvrages, à travers l'enseignement délivré par ces deux ouvrages, et il essaye de suivre, en tout cas de s'inspirer des préceptes qui sont énoncés dans ces deux bouquins. Donc c'est pour ça que ça a une part importante dans les trois romans. C'est un petit peu le fil rouge, hein, que suit Nils, et il va souvent prendre une décision en s'inspirant d'un de ses adages qu'il va trouver dans un de ses livres. Donc effectivement, cette culture asiatique est présente dans mes romans, à travers les références à ces deux livres, à travers aussi, comme tu le disais, les haïkus. Alors les haïkus qui ne sont pas là par hasard, hein, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que quand le lecteur va lire, il y a un haïku en début de chaque chapitre, quand il va lire le haïku, il va se dire, tiens, je ne comprends pas trop ce que ça vient faire là. Mais s'il continue de lire le chapitre, et à la fin du chapitre, s'il a la curiosité de revenir vers le haïku, il va comprendre pourquoi ce haïku était positionné à cet endroit-là. Parce que souvent, le haïku, il va donner une petite indication au lecteur sur le chapitre qui vient, ou alors même, parfois, il va lui donner un indice, une petite clé qui va venir expliquer le chapitre qui suit.
Alors justement, à la lecture, je m'étais posé la question, dans quelle mesure le haïku, qui est en exergue de chaque chapitre, est choisi après l'écriture du chapitre, ou est-ce qu'il est déjà... Il a séduit, et c'est le chapitre qui va s'inscrire dans ce que propose le haïku. Comment l'interaction entre les deux niveaux fonctionne ?
Non, c'est j'écris le chapitre, et après, c'est effectivement... en fait, je fais ce travail en cours d'écriture. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini le chapitre, je m'amuse, et c'est un petit peu une sorte de respiration entre deux chapitres, à essayer de trouver dans tous ces recueils, parce que c'est des haïkus que j'écris pas, hein, c'est des haïkus de poètes japonais célèbres, pour la plupart, enfin des fois pas que japonais, parce qu'il y a aussi Jack Kerouac par exemple qui est cité, qui a écrit
des haïkus dans notre précédent entretien.
Ouais. Donc après je m'amuse à trouver le haïku qui va coller à ce chapitre. Donc Alors, des fois, je le trouve rapidement. Hein, des fois, je mets plusieurs mois avant de le trouver. Il y a des chapitres qui restent sans haïku. Et puis, mais c'est aussi une source de plaisir pour moi, parce que quand je mets la main sur ce fameux haïku qui colle parfaitement, comme par miracle, au chapitre que j'ai écrit, bah c'est, on a un petit peu l'impression qu'on est, que le doigt de Dieu s'est posé sur nous, quoi, qu'on est un petit peu, c'est guidé, c'est un petit peu comme l'inspiration, quoi. Donc c'est.
Ouais. Tu nous disais que tu en écrivais aussi des haïkus. Oui, là, ils sont pas de toi. Alors, est-ce que c'est une activité parallèle qui se poursuit? Est-ce qu'il y a une idée d'un jour publier quelque chose ou...
Alors, j'en ai écrit des haïkus, et c'est vrai qu'au démarrage, pour être très honnête, dans Bleu Calypso, quand j'ai soumis le manuscrit à mon éditeur, c'était des haïkus que j'avais écrits. Et lui, il m'avait dit, alors je pense que peut-être qu'il estimait qu'ils n'étaient peut-être pas à la hauteur, et c'était certainement ça, mais il estimait qu'il valait mieux que je fasse une recherche et que je trouve des haïkus de poètes affirmés. Donc c'est ce que j'ai fait, et depuis, c'est ce que je continue de faire. Mais ce n'est pas impossible qu'un jour, ce soit mes propres haïkus qui viennent débuter chaque début de chapitre d'un futur roman.
Alors, dans la suite des publications, au départ, il y a eu Bleu Calypso, et puis un éditeur séduit qui a proposé, s'est engagé pour une trilogie.
Oui, tout à fait. Ouais.
La titre trilogie, on a l'impression qu'elle va devenir une tétralogie, voire plus. On s'attend comme ça à un quatrième volume qui devrait s'appeler Rose Madison.
Je vois que j'ai affaire à un lecteur attentif. Alors effectivement, juste pour cette petite histoire de titre, je m'amuse à glisser dans chaque bouquin peut-être une indication pour le lecteur attentif sur le titre du prochain ouvrage de la série. Voilà, bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais pour en revenir à ta question, effectivement, j'ai eu la chance que les éditions Slatkin et compagnie me signent un contrat pour une trilogie. Il y a aussi les éditions Pocket qui ont acheté la trilogie, ce qui est assez rare. C'est-à-dire souvent, les éditeurs en poche vont acheter un bouquin parce qu'il a bien marché ou parce qu'ils estiment qu'il a un potentiel. Mais c'est peu fréquent qu'ils achètent directement à un auteur qui débarque trois livres.
Donc, des titres qui ne sont pas encore écrits. Donc.
Oui. Donc moi, ça a été vraiment une grande source de fierté. Et puis un honneur aussi, parce que c'est aussi les éditions Pocket, c'est un éditeur qui compte et qui, moi je me suis trimballé toute ma vie avec un livre en format poche dans la poche de ma veste. Donc voilà, c'était aussi quelque chose qui était très important pour moi. Et effectivement, donc ces deux éditeurs m'ont signé pour une trilogie et il est probable qu'on poursuive. Alors pour être tout à fait honnête, il est probable d'ailleurs qu'on poursuive, mais peut-être pas tout de suite, parce que moi j'avais besoin aussi de souffler, et c'est pas impossible que celui qui sorte l'année prochaine soit ce qu'on appelle aussi en anglais, je suis désolé pour l'emploi de termes en anglais, mais un one shot, c'est-à-dire un roman qui sera en dehors de la série. Mais ça ne sera que pour mieux reprendre par la suite la série. En fait, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un plaisir et c'est une passion. Et c'est pas possible pour moi d'écrire sur commande. Donc, même si, effectivement, les éditeurs souhaitent qu'on poursuive, moi, j'avais envie, au cours de l'année qui est passée, de m'échapper un petit peu de ces personnages. J'ai quand même passé 3 ans avec eux, mine de rien. Et j'avais envie aussi de raconter une histoire qui n'était pas un polar pour le coup, qui est plutôt de l'ordre du thriller, dans lequel la nature a une part encore plus importante, mais ça on en parlera l'année prochaine. Mais voilà, donc c'est possible qu'il y ait une respiration. Voilà, bon, il pourrait être totalement clair aussi. Le quatrième est déjà quand même bien avancé aussi. Donc voilà, tout est en place pour que l'aventure se poursuive. D'autant plus que j'ai aussi j'ai eu la surprise et le plaisir de savoir que Bleu Calypso avait été acheté, donc les droits de Bleu Calypso avaient été achetés par la télévision. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura un film très rapidement sur nos écrans, parce que ça leur arrive d'acheter des ouvrages et après d'avoir du mal à les financer ou, voilà, ou de les garder sous le coude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un intérêt fort de la part de France Télévisions, hein, je peux le dire, hein, puisque le contrat a été signé. Et ils ont déjà rédigé la Bible, ce qu'on appelle la Bible du film. Donc, c'est une histoire qui est bien engagée et qui aussi me pousse aussi à poursuivre la série. Voilà. Mais alors, c'est pas me pousse, c'est vraiment, ça sera vraiment un plaisir parce que, comme je le disais précédemment, ça ne peut répondre chez moi qu'à une envie forte. Je ne peux pas écrire sous la contrainte. Donc, voilà. Mais c'est vrai. Déjà, pour aller jusqu'au bout de mon propos, déjà, je prends grand plaisir à retrouver mes personnages à travers l'écriture du quatrième de la série là, qui est en cours.
D'accord. Donc, Rose Madison va bien arriver, mais pas tout de suite.
Peut-être pas tout de suite, voilà. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais il arrivera.
Bien. Alors, on va terminer cet entretien, Charles Aubert, avec un scoop qui est que Nils Hogan écoute Divergence FM. Vous confirmez ?
Je confirme, effectivement. Alors, c'est vrai que c'est amusant parce que c'est vrai qu'une fois en écoutant, en t'écoutant à la radio, tu avais passé.
Pour nos auditeurs qui ne saisissent pas, oui. Je propose aussi une émission consacrée à la musique classique sur l'antenne de Divergence FM. Voilà. Billy Mélomane.
Et j'avais effectivement été séduit par un morceau que je ne connaissais absolument pas, d'un groupe musical dont j'ignorais même jusqu'à l'existence. Et c'est vrai que donc, j'ai eu la curiosité de creuser, d'aller rechercher un petit peu ce qu'il faisait. Et du coup, ça m'a tellement plu que Nils, d'Anvers en bas, à un moment donné, au cours d'un trajet en voiture, enclenche un des albums. Alors, je ne sais plus exactement.
Alors, c'est une musique d'un compositeur cubain qui s'appelle Ignacio Cervantes.
C'est ça.
C'est des musiques de salon. Hein, on est au 19e siècle. Voilà, et c'est
donc, il enclenche
une des danses pour piano d'Ignacio Cervantes.
Il enclenche cette musique qui le transporte aussitôt, comme elle m'a transporté moi-même quand j'ai écouté ton émission. Donc oui, c'était un petit clin d'œil. Ouais, parce qu'il y a aussi, on parlait de la nature, moi je suis très sensible à la musique aussi, aux odeurs. C'est vrai qu'un livre, ça véhicule toute une... Voilà, ça ne fait pas appel à un seul sens, hein, celui de la vision. Hein. C'est-à-dire que quand on lit un roman, on doit se sentir transposé dans une atmosphère, dans la nature. Il doit y avoir des odeurs puissantes. Comme dans la vraie vie, il doit y avoir de la musique aussi, parfois, qui enchante ou qui peut agacer. Là, en l'occurrence, qui enchante, qui est enchanteresse. Voilà, donc c'est toujours pour moi une grande joie, une grande curiosité de découvrir effectivement des choses que je ne connais pas. Et oui, tout à fait.
Voilà, donc on conseille à nos éditeurs de se plonger dans un livre qui est pas juste une histoire, mais qui leur donnera à entendre le silence qui plane sur les étangs comme autour de nous en ce moment. Ponctué de quelques
cris de mouettes,
ou autres oiseaux, et puis on entend le bruit des vagues très faible en arrière-plan au loin, et puis des gens qui passent, voilà.
La vie.
Et puis il y a les odeurs, et puis il y a la fraîcheur ou la chaleur, ça dépend des saisons. Merci Charles Aubert, et puis on attend l'intermède. Avant Rose Madison.
Oui. Ouais, il arrivera de toute façon pas avant l'année prochaine. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci à tous les auditeurs. Et voilà, j'espère que vous prendrez plaisir aussi à la lecture de ces ouvrages. Merci beaucoup.
Merci. Marc Page s'entretenait avec l'écrivain Charles Aubert sur les bords du canal de Ronasset. Et pour conclure cette émission, la musique d'Ignacio Cervantes s'impose avec une très courte pièce pour piano Interrumpida.